il y a des rendez-vous où le cœur battait pour être présent à l'heure. Le jour où j'ai fixé rendez-vous avec ma fiancée. Et je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous. Et puis, il y en a d'autres rendez-vous, mais un des rendez-vous les plus chers, c'est celui que j'ai eu avec mon Seigneur. Et c'est de lui, c'est de ce rendez-vous que je voudrais parler cet après-midi. Il y a ainsi dans la parole de Dieu de ces rendez-vous qui sont précieux. Dieu a placé pour nous des perles qui sont précieuses et je voudrais lire un de ces bijoux que Dieu a placé dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont leur Bible, cela se trouve dans l'évangile de Luc, le troisième évangile dans le Nouveau Testament, et cela au chapitre 13. Mais pour ceux qui n'en ont pas, voilà, j'ai placé pour vous le texte qui va nous parler d'une triste situation, mais une situation qui a une heureuse issue. C'est celle d'une femme qui était courbée et son regard, c'était le sol. Quelle triste réalité pour cette femme dont nous allons lire l'histoire maintenant. Évangile de Luc, chapitre 13 et au verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, le jour du repos, on pourrait dire pour nous le jour du dimanche. Voilà, il enseignait dans une des synagogues, dans un des temples, dans un des lieux de culte, des lieux de prière, le jour du repos. Et voici, il y avait là. Et j'aime insister sur ce petit mot « là » qui indique un endroit. Là où Jésus se trouvait. Comme il l'est cet après-midi au milieu de nous. Il y avait là une femme sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était voûtée, complètement courbée au point qu'elle ne voulait pouvait pas du tout se redresser. Et nous avons vu une des photos d'une femme infirme. Quel triste sort pour elle de vivre depuis 18 ans dans cette situation. Ce qu'elle pouvait voir, c'était son ombre, rien d'autre. Et nous continuons la lecture. Lorsque Jésus la vit, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus posa ses mains sur elle. À l'instant, pas dans quelques minutes, au moment où Jésus parle, au moment où Jésus la touche, à l'instant même, cette femme se redressa et se mit à glorifier Dieu. Une constatation qui me paraît heureuse pour que chacun s'y retrouve dans cette histoire, c'est que le nom de cette femme n'est pas mentionné. Et cela, Dieu a bien fait. Parce qu'en lisant cette histoire, sans nom, sans visage, simplement que je découvre une personne qui est accablée, qui est infirme, qui vit douloureusement son quotidien, je peux m'approprier cette histoire et me dire, c'est peut-être de moi qu'il s'agit. C'est ce que nous allons découvrir. Ce qui est heureux dans cela, c'est qu'elle était là où Jésus se trouvait. Alors, bien-aimé, je crois à ce Dieu du miracle. Je crois à ce Dieu de la vie. Je crois à ce Dieu qui est présent au milieu de nous, qui me voit, qui sonde mon cœur, qui me parle. Un Dieu qui ne casse pas, mais un Dieu qui va relever qui ne va pas écraser, mais un Dieu qui va consoler et qui va guérir. Oh pardon, je suis allé dans le mauvais sens. Mais la joie dans cette situation, elle est vite ternie par de l'opposition. L'opposition, elle naît peut-être autour de nous, mais je pense que la plus grande des oppositions, elle est en moi. J'ai peur. Et je n'ose pas me laisser regarder par Jésus. Qu'est-ce qu'il a à me regarder, lui? Il m'épie toujours. Et j'ai ce sentiment d'être épié par ce Dieu des cieux, par ce Dieu de Jésus-Christ, par celui qui est mon Dieu. J'ai peur de me laisser regarder par lui. Et nous allons lire ce qui se passe dans cette histoire qui pourtant est tellement belle. Mais autour, dans ce lieu d'accueil qu'est la synagogue, qu'est ce lieu de prière pour nous dans cette église, dans ce lieu qui devrait être un lieu d'accueil, de miséricorde, de pardon, de joie, de guérison, de l'âme, du cœur, il y a, bien aimé, de l'opposition. Et nous allons lire ce qui s'y passe dans cette opposition. Le chef de la synagogue fut fâché de ce que Jésus ait fait cette guérison le jour du repos. Il s'adressa, le chef de la synagogue s'adressa à la foule et dit, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. » Mais pas précisément, aujourd'hui, dimanche, ce jour de repos. Le Seigneur lui répondit en disant, « Tu es un hypocrite. Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir, même le jour du repos, le jour du sabbat, le jour du dimanche. N'est-ce pas vrai? Mais voilà une femme de la même descendance que vous, d'Abraham, qui est fille comme vous, de la même nationalité que vous, que Satan tient attachée depuis 18 ans. Alors, parce que c'est le dimanche, il n'aurait pas fallu la délivrer de sa chaîne. Cette réponse de Jésus fit rougir de honte tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était dans la joie, enthousiaste de le voir accomplir tant d'actions merveilleuses. Au sein de l'opposition jaillit une personne. Une personne qui parle, une personne qui touche, une personne qui parle non pas à notre intelligence, mais qui parle au cœur. Comme cet après-midi. Et je voudrais tellement que vous l'entendiez, cette personne, non pas moi, mais lui. Son quotidien. Cette femme, sans doute installée là dans la synagogue, selon la coutume de l'époque, au balcon. Silencieuse. À l'écart des autres, oubliée, écrasée par son malheur. Elle vivait des choses difficiles dans son quotidien, à la fois physiquement, mais aussi moralement, depuis si longtemps. Et en plus, voilà qu'elle subit l'opposition dans un lieu qui doit être un lieu fraternel. Il me semble que la plus grande des oppositions, comme je l'ai déjà dit, elle est parfois issue de nous-mêmes et de ces raisonnements qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Quelle rencontre merveilleuse elle a avec Jésus-Christ. Une rencontre qui va la transformer, à la fois physiquement pour elle, mais l'essentiel, une rencontre qui va transformer son âme, son cœur. Elle qui était sans espérance, qui voyait son ombre, voilà que maintenant, elle pourra voir le soleil et contempler celui qui a agi dans sa vie. Elle passe d'une situation courbée, écrasée depuis 18 ans à une situation où elle est debout. Debout. Elle passe d'une vie sans espérance, avec une vision limitée au sol, vers la terre, vers le monde, à la pleine lumière de Dieu. Il n'y a plus d'ombre pour elle. Elle voit la clarté de son Sauveur. Elle passe de la souffrance à la guérison, à la délivrance. Elle passe du royaume des ténèbres à la lumière. Elle passe du royaume où Satan en est le prince, où le péché fait ses ravages, avec comme ça l'air la mort spirituelle de cette relation avec Dieu, de cette mort physique à laquelle tout homme va être vaincu par l'ennemi qui est la mort. Depuis 18 ans, bien-aimé, le seul horizon de cette femme est le sol. Elle ne voit que ses pieds et ceux des autres. On dira heureusement pour elle, parce que si elle avait jeté les regards vers ceux qui l'entouraient, peut-être aurait-elle rencontré des regards de mépris. Mais peut-être que cette femme s'était habituée à sa souffrance. Et que dans son esprit, elle ne réalisait pas qu'il y a quelque chose de différent et infiniment plus beau que ce qu'elle était en train de vivre. Est-ce bien à elle que Jésus s'adresse, comme à toi cet après-midi? Peut-on imaginer les pensées de cette femme qui est exclue, qui se trouve reléguée là derrière tout le monde? Peut-on imaginer la question qui se pose dans sa tête? Quoi? Quelqu'un m'aime? Quelqu'un s'intéresse à moi? Quelqu'un me parle? Quelqu'un ne me juge pas? Quelqu'un ne méprise pas? Jésus lui parle, comme nous. Il nous parle au travers de cette histoire dans l'Évangile. Un rendez-vous qui a été bouleversant. Et dès lors, la vie peut reprendre son goût, son vrai sens. En hébreu, j'aime bien, il y a un mot qui est traduit comme ceci, comme étant le sens de la vie. Ce mot hébreu, c'est taham. Et quand on fait de la traduction, il est parfois difficile de saisir plusieurs mots parmi tant d'autres. Et quand dans la Bible, le mot taham est utilisé, c'est pour traduire le sens de la vie, mais avec cette connotation importante, donner le goût à la vie. Et cette femme avait perdu le goût de la vie. Peut-être c'est ton cas. Ma vie n'a plus de sens. Je suis foutu. Qu'est-ce que je fais encore? Une femme qui était courbée, impossible de se redresser. Et pourtant, à la parole du Seigneur, lorsqu'elle se laisse saisir par la voix de Dieu, elle se redresse. elle glorifie son Dieu. Pour nous, bien-aimés, le rendez-vous que Dieu me donne dans mes pensées, c'est là où le Fils de Dieu est mort pour moi. Et déjà bien avant que l'Évangile ne soit écrit et vécu par le Seigneur Jésus, un homme, un prophète, Ésaïe, écrivait déjà du Seigneur Jésus. Et cela est devenu réel lorsqu'on lit les Évangiles. Permettez-moi de vous lire quelques versets que l'on trouve dans le prophète Ésaïe. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus qui est le Christ, l'iniquité de nous tous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors je voudrais te poser la question, qu'est-ce qui t'empêche de te redresser cet après-midi? Qu'est-ce qui t'empêche de donner goût à ta vie? Il y a des montagnes, comme pour cette femme, des montagnes qui sont hautes et élevées. Et bien avant toi, il y a un homme, David, qui a vu ces montagnes devant lui et qui sait écrire, « Mais d'où me viendra le secours ?» Et non, mais pas rester là. Il a affirmé avec autorité, « Le secours me vient d'en haut de ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. » Alors peut-être que tu dis, « Ma vie est un véritable gâchis. » Elle n'est pas un fleuve tranquille comme on l'a promis au début. Elle est semée de mille et une difficultés, de mille et une choses qui sont de véritables poids pour moi, qui fait que je suis courbé sous ce poids. Je suis écrasé. Je ne sais plus relever la tête. Permets-moi de te citer quelques situations possibles. Tu as vécu une enfance difficile. Une jeunesse malheureuse, une adolescence où tu as subi les outrages. Tu as été le mal-aimé, tu as été maltraité, tu as subi des paroles blessantes, humiliantes. Tu as reçu peut-être des harcèlements physiques, moraux. Tu as peur de ce monde. Ton entourage est constamment violent autour de toi. Il y a des relations qui sont difficiles et qui pèsent sur ton âme. Tu es pris en otage. Il y a l'amitié qui s'est mal soldée. Il y a des choix de vie que tu as faits dans le passé qui sont lourds à porter et qui t'amènent parfois à être honteux de ces choix que tu as faits. Tu es peut-être à cause de cela dans la spirale du mensonge. Pour cacher des vérités qui te sont propres, que tu juges honteuses, à proclamer devant les autres. Mais Dieu les voit. Il y a peut-être des pardons qui ne sont pas donnés à toi-même. Tu refuses ce que tu es. Et aussi des pardons refusés à d'autres. Tu te nourris de rancune. De ces racines d'amertume, tu les ressasses constamment dans ton être intérieur, ce qui fait qu'au lieu de t'élever, tu te tires toi-même vers le bas, et Dieu ne veut pas cela. Il veut la vie, une éclosion, une explosion de vie dans ton être intérieur. Tu es peut-être atteint par les ravages du péché, avec son cortège de souffrances, de maladies qui ravagent ton corps. Ton âme, tes pensées, une vie qui est sans sens, un lendemain qui est incertain. Je pense à ces jeunes, le chômage, le souci de la politique qui essaie, bon gré mal gré, de trouver des solutions sans y parvenir. Des péchés qui sont des réalités négatives. La peur de la vie, mais aussi peut-être la peur de la mort. Peut-être que depuis des années, tu as essayé de faire avec. Voilà, c'est comme ça. Tu as essayé d'oublier. Tu t'es peut-être résigné, mais en vain. Combien parmi nous sont dans l'attente de quelque chose qui va changer le sens de leur cours de vie et donner goût? Les jours s'égrènent et rien ne passe. C'est alors que Jésus est là. Lui ne baisse pas les bras. Il veut te rejoindre là où tu es et te redire « Je t'aime ». Moi, je veux que ta vie prenne son épanouissement. Jésus veut guérir ton âme. Il veut guérir tes pensées. Et remplacer le négatif par des choses lumineuses, éblouissantes. Et ce rendez-vous, c'est là qu'il te le donne. Parce que la puissance de la croix, elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. C'est là que Dieu donne rendez-vous. C'est là que Christ a porté ton péché en son corps, qu'il a été puni à ta place à cause de ton péché, puni de la part de Dieu. Et peut-être que toi, dans ton être intérieur, tu as dit, mais c'est à cause de lui, il a péché. Mais non, bien-aimé, il était pur, il n'avait jamais commis aucun péché. Et par amour pour moi, pour me délivrer, il a accepté de prendre cette place. On en est à la conclusion. La conclusion, je ne vais pas reparler de cette histoire, de cette femme. On en a parlé pendant une demi-heure maintenant. J'espère que vous la retiendrez pour vous l'approprier. Je voudrais parler avec une métaphore et te poser une question. Si tu es une fleur. Quelle fleur serais-tu? Sur Internet, on trouve tout. Je vais vous en proposer quelques-unes. Peut-être que tu t'appellerais souci. Parce que c'est ce qui t'anime pour l'instant. T'es accablé, t'es courbé, voilà, tu n'en peux plus. Ta vie, voilà, il n'y a plus de sens, elle n'a plus de goût. T'es en souci. Et tu oublies, tu n'entends pas la voix de ton Seigneur, de ton Créateur te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Et moi, je vais vous donner le repos du cœur. Je vais te donner, je vais te placer dans tes pensées, non plus le souci, mais ma paix, ma joie, celle que le monde ne peut pas donner. Et toi, tu regardes le monde. Arrête, regarde à moi, dit Jésus. Et Jésus de dire, tu es dans les soucis, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Voilà des textes, des promesses que la Bible contient pour moi. Si tu t'appelles souci, peut-être pensée, tes pensées sont négatives, tes pensées sont sombres, fatalement tu ne bois que du noir, dans le monde dans lequel tu vis, tu ne bois que du noir. Et Dieu te dit, si tu regardes à moi, tes pensées négatives vont prendre un autre essor. Elles vont être éclairées de ma présence, d'un but dans ta vie, un but qui est glorieux, qui n'a rien à voir avec ce que le monde propose.
Alors arrête d'avoir des pensées qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Bannis ces murs qui t'empêchent de contempler Jésus. Et laisse tes pensées rendues captives de Jésus-Christ, ton Sauveur. Peut-être que c'est l'impatience. La région d'où je viens, le Borinage, on est vraiment impatient là-bas. J'ai le sentiment qu'ici à Liège, c'est pareil. Il n'y a pas grande différence. Tout de suite. Tel est le slogan de ce monde aujourd'hui. On surfe, on vole sur des vagues d'Internet. Voilà. Il faut constamment que ça défile. On est impatient. On veut tout de suite. Sans se rendre compte que quand on agit ainsi, le découragement est à notre porte. Si pas déjà installé en nous. Or, nous avons affaire à un Seigneur qui est le Dieu de celui qui encourage, qui est le Dieu de la consolation, de la compassion, de la miséricorde, de ce Dieu qui nous fait mettre debout et qui nous fait avancer avec de la patience, parce que nous sommes dans son temps quand on est attaché à lui. Peut-être que je suis comme un pissenlit. Je suis ballotté à tout vent. Aujourd'hui, les MR, ah oui, sont bons. Hier, c'était le PS, toujours, oh, sont bons. Et voilà, je me ballotte là d'un quoi à l'autre. Voilà, la science religieuse bouddhiste, oh, c'est bien, tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Et on se laisse ainsi emporter à tout vent, comme un pissenlit. Alors que l'Évangile me dit que Jésus-Christ est le seul chemin, est la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Et moi, me croyant faux, je suis là comme un mouton de panurge. Je suis la foule. Alors que Jésus me dit, va à contre-courant. La vie n'est pas dans ce monde, elle est ailleurs. Pas de commentaire. Hein. Peut-être que je suis comme un cactus, toujours prêt à bondir, à piquer l'autre. Parce que dans ma vie, j'ai peut-être été piqué. Mais voilà, l'ortie, c'est bien, de loin. Mais quand je la touche, elle sait sortir son suc, son venin, pour que, effectivement, je découvre les pustules qui arrivent sur mes doigts. Peut-être que je suis comme cela, sans m'en rendre compte. Et Jésus ose se frotter à toi, même si tu es un cactus, parce qu'il ne veut pas que tu sois un cactus dont... J'allais dire, non. Qui que tu veux, Dieu a besoin de toi. Il a besoin. Avant d'aller plus loin, j'ai pris d'un bouquet que j'ai offert à mon époux. Chaque semaine, je lui offre un bouquet. Oui, hein? C'est bien. Mais, chez Correuil, puis rouge. Et peut-être qu'à un moment donné, je me vois, moi, comme une fleur fanée, courbée. J'en ai pris quelques-unes d'un bouquet que l'on a mis à la poubelle hier. Peut-être que je me vois comme cela. Ou encore comme d'autres ici, mais qui sont dans le même état. Voilà. Peut-être que c'est ainsi. Mais Dieu, il voit cela. Il te voit. Non pas courbé, mais il te voit beau, belle. Tu es précieux à ses yeux. Il t'aime. Et il veut que tu sois toi dans son bouquet à lui. Pas courbé, mais revigoré, plein de vie, donnant du pouf à la vie, la vie. Christ veut te donner. Ça, c'est pour les parents. Hein? Voilà. Un peu comme si c'était vous qui étiez dans le bouquet, en train de fleurir les parents, pour leur montrer tout votre amour. Mais quelle joie si c'était Christ qui, lorsqu'il va se présenter à lui-même, ce bouquet, pouvait dire, ah, tiens, voilà Jeannine. Ah, voilà Dani. Ah, voilà Sarah. Chacun de nous, nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Tu te sens piétiné, courbé, cassé, inutile, sans odeur, méprisé, fané. Dieu désire te redresser, te guérir, malgré que tu sois dans le désert de ce monde. Il veut faire de toi une fleur, une belle fleur. Et parfois, comme on l'a déjà dit, j'ai l'impression d'être comme ça, fané. Alors que Dieu, lui, te voit comme ça. Il le veut. Écoute ce qu'il dit à ceux qui viennent à lui. Je prendrai plaisir en toi comme en un parfum agréable. Il ne te voit pas courbé ni écrasé. Il veut te sortir de là. Ce que tu crois de toi est largement dépassé par ce que Dieu veut faire de toi. Veux-tu rencontrer maintenant ton Sauveur? Il te tend la main et il dit, viens à moi. Il te dit, mon enfant, ma plus belle fleur, je sais tout de toi. Je sais que tu es courbé. Je sais que ta vie est peut-être flétrie. Tu n'as pas à me le cacher, je le vois. Et je reprends la phrase. Je sais tout de toi, je connais tes souffrances, tes larmes. Mais Jésus te dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'appelle par ton nom. Tu es précieux, tu es unique, tu as de la valeur pour moi. Alors si tu te donnes à Jésus, pas quelqu'un de courbé, même si physiquement tu le seras, peut-être, mais dans ton cœur il y aura la paix et ça va déborder. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour cette délivrance. Merci pour ton amour. Je cède la parole à Jacques, mais avant, je vous invite à chanter un chant qui me semble être la synthèse de tout ce que nous avons partagé. Mon Dieu est si bon. Il est ici, le diable, oui, j'ai manipulé. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Condition, il faut que tu viennes à lui, tel que tu es. Nous chantons ces trois strophes et Jacques reprend la parole.